Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue dans votre journal du mercredi, une édition préparée avec professionnalisme, rigueur et vérification systématique de faits. Place à l'actualité. Goma sous le choc, un drone meurtrier frappe en pleine ville. La MONUSCO met en garde contre une spirale dangereuse. Trois morts, des maisons éventrées et une peur grandissante. La mission de l'ONU exige une enquête totale sur l'usage de drones et presse les belligérants de stopper immédiatement cette montée de violence. Mwenga en état d'alerte, la zone de santé lance une riposte musclée contre le choléra, 28 cas, 5 décès et une épidémie dopée par la pénurie d'eau potable. Face à la montée du risque, les équipes sanitaires accélèrent le dépistage, le traitement et les actions de prévention pour tenter de stopper la propagation. Urgence médicale. Le docteur Ernest Amsini Safari forme les cliniciens des Kindu pour sauver plus vite et mieux réagir en milieu hospitalier. En vite du journal, les spécialistes en médecine interne expliquent les objectifs et les impacts du séminaire de renforcement des capacités qu'il anime au centre Hippocrate de Kindu. Nouvelle flambée de violence à Goma, la MONUSCO hausse le ton. La mission de l'ONU condamne vigoureusement l'attaque de drones menée mercredi matin dans la ville. Une attaque meurtrière qui a coûté la vie à un membre de son personnel et deux civils, laissant également plusieurs habitations endommagées. Dans un communiqué publié ce mercredi, son chef par intérim, Bruno Le Marquis, qualifie cette escalade de violence des profondément préoccupantes et rappelle que les attaques ciblant les Nations Unies pourrait constituer des crimes de guerre. Il exige que toute la lumière soit faite sur cet incident et appelle les parties en conflit à mettre fin immédiatement aux violences. Les détails, c'est dans ce papier signé Lievin Mbuinga.
La MONUSCO dénonce une nouvelle escalade de violence à Goma. Une attaque menée à l'aide de drones a causé la mort d'un membre du personnel des Nations Unies et de deux civils et en plus endommagé plusieurs habitations. Dans un communiqué, le chef par intérim de la mission, Bruno Le Marquis, condamne avec la plus grande fermeté l'usage d'armes et de drones d'attaque qui mettent en danger les populations civiles et le personnel des Nations Unies. Il décrit cette montée de violence comme profondément préoccupante. Bruno Le Marquis présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et salue, je cite, « le dévouement et le professionnalisme du personnel des Nations Unies au service du peuple congolais ». Il exprime également sa solidarité envers toutes les personnes touchées par cet acte. Il rappelle que les attaques visant le personnel de l'ONU pourraient constituer des crimes de guerre conformément au statut de Rome et demande que toute la lumière soit faite sur cet incident. Il insiste sur la nécessité d'une enquête rapide, indépendante et crédible pour identifier les responsables et les traduire en justice. Bruno Le Marquis appelle enfin toutes les parties à cesser immédiatement les violences conformément à leur engagement de respecter le cessez-le-feu, à privilégier la voie de la solution politique et le dialogue afin de protéger les populations civiles et à capitaliser sur les gains récemment obtenus dans le cadre des efforts de paix.
Et pendant ces temps, l'UNICEF réagit avec une vive émotion. L'organisation s'est dit bouleversée par la mort de sa collègue Karine Bouissé, tombée lors de cette même attaque de drone. Présentée comme une humanitaire engagée, dévouée aux enfants et aux familles touchées par les crises, Karine laisse un vide immense au sein de l'équipe. L'UNICEF adresse son soutien à sa famille et rappelle une fois encore l'urgence absolue de protéger les travailleurs humanitaires. Après les condamnations de la MONUSCO et de l'UNICEF, place maintenant aux faits. Que s'est-il réellement passé ce matin à Goma? À l'aube, la ville s'est réveillée en sursaut. Des drones kamikazes ont frappé le quartier Katindo, une résidence privée touchée de plein fouet, plusieurs maisons endommagées et un message, la violence gagne du terrain, y compris dans les zones jusque-là épargnées. C'est une première depuis la prise de contrôle de la ville par l'AFC M23 après les combats de l'an dernier. Un quartier central de Goma est directement visé. Sur place, les habitants que nous avons joints parlent d'escalade, de tensions, d'inquiétude et demandent un retour au dialogue pour éviter l'embrasement. Pour les récits complets et le témoignage recueilli sur le terrain, voici le papier d'Alain Irunga.
C'est aux environs de 4 heures du matin que ces explosions ont été enregistrées. Si certains voisins du lieu touché disent n'avoir rien entendu, d'autres affirment avoir clairement perçu le bruit de l'attaque. Sur place, les débris témoignent de la violence de l'impact. Jusqu'à présent, il est encore difficile d'établir avec certitude l'origine de ces frappes. Les habitants de Goma rencontrés ce matin à travers la ville espèrent qu'une enquête indépendante pourra établir les responsabilités. En attendant, la vie suit son cours. Les activités sont normales dans la ville, les écoles ont ouvert leurs portes, la circulation est fluide et les commerces tournent. Devant une école primaire du quartier Imbi, des parents rencontrés ce matin expliquent qu'ils n'ont pas informé leurs enfants du drame pour ne pas les perturber en cette période d'examen. Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population le traumatisme d'une nouvelle guerre urbaine. Dans une ville où l'on tente simplement de survivre, nous n'avons pas besoin du bruit des armes, a lâché une maman qui venait de déposer son enfant avant de rejoindre le quartier Biréré où elle tient une pharmacie.
Et toujours dans l'est de la RDC, la journée a encore été secouée. Beni a vécu un nouvel incident majeur. À l'aéroport de Mavivi, un incendie fulgurant a dévasté ce mercredi la salle d'attente et le bureau de la régie de voies aériennes. Les flammes n'ont rien épargné. Plusieurs bâtiments de service ont été touchés en chaîne. Face au brasier, la MONUSCO a foncé sur place, déployant ses camions anti-incendie pour tenter de stopper la progression du feu et limiter la casse. On revient sur ce sinistre et ses conséquences avec Martial Papimukeba.
Selon des témoins, les feux seraient partis de la cuisine d'un restaurant situé dans les bâtiments abritant la salle d'attente, les bureaux de la RVA et d'autres services aéroportuaires. Construit entièrement en planche il y a une dizaine d'années, les bâtiments a rapidement pris feu, facilitant la propagation des flammes et rendant l'intervention des pompiers particulièrement difficile. D'après Abdourahmane Ganda, chef de bureau de la MONUSCO à Beni, les équipes de la mission onusienne ont travaillé de concert avec les services du gouvernement congolais en fait d'empêcher la propagation du feu vers d'autres installations sensibles de l'aéroport.
Tout le monde s'est mis à pleurer. J'en profite pour saluer la collaboration des FARDC, de la PNC, des autorités de l'aéroport. On a pu maîtriser, on a sauvé ce qui a sauvé. Malheureusement, la nature des matériaux de construction du bois a fait que rien n'est resté, mais il n'y a pas de perte en vie humaine. On a protégé les aéronefs qui sont là, on a protégé le dépôt de carburant.
Les trafics aériens s'est toutefois poursuivi à l'aéroport de Mavivi, mais la vérification des passagers et le contrôle des bagages se font désormais en plein air dans un aéroport qui disposait déjà d'installations limitées. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En Ituri, la communauté internationale resserre les rangs. Les Nations Unies et l'Union Européenne réaffirment leur engagement aux côtés des autorités provinciales dans la quête de paix et de stabilisation. Dans un communiqué publié mardi 10 mars à Kinshasa, le système des Nations Unies et l'équipe européenne en RDC annoncent vouloir intensifier leur soutien à la protection des civils, à la cohésion sociale et aux solutions durables face aux défis sécuritaires persistants dans cette province de l'est du pays. Pour les détails, place au reportage de Martial Kizabiamongo.
Selon les deux missions coordonnées du système des Nations Unies et de l'Union Européenne, la province de l'Ituri, située dans l'est de la RDC, est considérée comme stratégique, reste fortement touchée par les violences armées. Ces violences continuent d'entraîner des déplacements massifs des populations. Mais malgré cette situation, les partenaires internationaux estiment que la province présente aussi des opportunités pour la stabilisation. Dans ce contexte, ils soulignent que la nouvelle stratégie provinciale pour la paix et la stabilisation constituent une avancée importante vers une approche intégrée combinant l'humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Les deux missions s'allient également la disponibilité du gouverneur des provinces et de son équipe dans la coordination des acteurs humanitaires, du développement et de la paix à l'Ituri. Elles réaffirment leur volonté d'accompagner la mise en œuvre de cette stratégie de manière inclusive et cohérente tout en accordant une attention particulière à l'égalité de de genre et à la participation des femmes. Bounia, Martial Kizabiabongo, Radio Okapi.
À Kinshasa, la peur a gagné le quartier Bibois. Après l'attaque armée qui a sémé la panique dans la commune de Lancélé, les habitants restent sous le choc. Dans la nuit du 9 mars, des hommes armés ont opéré pendant près de 2 heures, ciblant plusieurs parcelles, pourtant situées tout près d'un poste de police. Une situation incompréhensible pour les habitants qui dénoncent l'absence totale d'intervention des forces de sécurité et exigent des explications des autorités. Ce climat de tension a paralysé le quartier. Plusieurs commerces sont restés fermés ce mardi matin. De son côté, le bourgmestre de Lancélé appelle au calme. Il assure qu'aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée et affirme que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité, notamment avec des patrouilles nocturnes. Il s'est exprimé au micro de Nancia Tambo.
C'est un des communes qui ont opéré la nuit du 8 au 9 à Bibois, dont ils ont visité pas mal de maisons et à qui ils ont emporté le bien matériel. Ils ont tapé la crosse, disons, d'une arme au niveau de la tête et beaucoup plus des cas de vol à qui ils ont emporté des ordinateurs de la population en attendant aussi des opérations mobiles qui se font pendant la nuit et des patrouilles. Donc, je peux dire actuellement la situation est devenue impeccable. Il n'y a pas l'état de mort d'hommes qui ont été signalés. Parce que moi-même, j'ai effectué des descentes, j'ai visité. Mais les cas de décès, on n'a pas réussi un cas. À la population d'être calme, qui se tranquillise parce que le bourgmestre a déjà pris des dispositions. Je vous ai dit hier, j'ai installé déjà à laquelle on a mis la garde publique et qu'on puisse policier. Ils sont là pour patrouiller la nuit. Cette équipe est en train déjà de travailler. La population, soit qu'elle marche, pour accompagner les actions ou les actes du bourgmestre, ainsi dénoter tous les malfrats qui sont en train de déranger notre population.
Et dans le sud Kivu, l'inquiétude grandit. La zone de santé de Mwenga, dans les territoires du même nom, fait face à une épidémie de choléra. 28 cas ont déjà été recensés, dont 5 décès répartis dans 3 aires de santé. Le médecin chef de zone assure que des mesures préventives ont été mises en place pour contenir la propagation. Mais le docteur Koskanemo pointe un problème majeur, la faible couverture en eau potable, un facteur qui favorise la résurgence de la maladie. On écoute cet extrait choisi par Jean Kassami.
L'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga à la 9e semaine épidémiologique de cette année par l'administrateur du territoire de Mwenga. Et cela, c'était après la confirmation biologique de 5 échantillons sur les 8 prélevés. La zone a déjà enregistré à ce jour 28 cas, dont 5 décès, 3 dans la communauté et 2 dans les établissements de soins de santé. Les cas ont été notifiés dans 3 aires de santé, d'Iganda, Tuseswa et Kalole. Disons que la zone de santé a déjà bénéficié d'un appui de la DPS Sud Kivu, constitué de 150 litres de Ranger lactate, des trousses de perfusion et chlore. Malgré l'appui de la DPS en intrant, la zone n'a pas de CTC pour une bonne prise en charge des cas. Signalons aussi que la couverture de la zone de santé en eau potable est trop faible.
Alerte dans les Katanga, la Commission nationale de droits de l'homme dénonce les conditions de détention de 120 enfants en rupture familiale retenus depuis un mois dans les installations de la police d'investigation criminelle de Lubumbashi. La CNDH, qui s'est rendue sur place, parle de mauvaises conditions d'hébergement et s'interroge sur la légalité même de leur détention. Ces enfants avaient été interpellés dans le cadre de l'opération provinciale baptisée Zéro Chégué, visant à retirer les enfants de la rue. Mais pour la commission, les conditions actuelles sont loin de respecter le standard en matière de droits de l'enfant. Le coordonnateur provincial de la CNDH, Maître Joseph Kongolo, décrit la situation et appelle à des mesures urgentes. Il s'exprime au micro de Paulin Munanga.
Sur ces 120 enfants, en majorité, ce sont vraiment des mineurs. Les enfants n'ont pas droit au bain. Depuis qu'ils sont là, ça fait un mois, ils ne se lavent pas. Ces enfants sont là présents avec des présumés criminels. Les enfants dorment à même le sol, sans couverture, sans matelas. Ils sont dans l'hangar. En fait, à la BCRS, il y a un hangar et puis il y a de celui-là. L'hangar n'a pas de vitre. Ça pose un problème par rapport à leur exposition contre les intempéries. Et les enfants ont déclaré parmi eux, non seulement il y a des malades qui ont été évacués, il y a aussi d'autres malades qui sont là, mais il y aurait aussi des morts. L'information qui n'a pas été confirmée. c'est un cachot de la police. Pourquoi ces enfants sont là? S'il y avait des enfants en conflit avec la loi, leur juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Et les autres enfants qui ne sont pas en conflit avec la loi, ils doivent être retournés dans leur famille, placés dans des centres d'accueil pour enfants reptiles familiales. La CNDH exige au gouvernement provincial qui a amené les enfants là-bas de les sortir de là rapidement, sans condition.
À Kisangani, le prix du carburant flambe et le ménage voit leur budget mis à rude preuve. Depuis lundi, les litres d'essence s'est passé de 3700 à 4000 francs congolais. Une hausse officielle qui profite surtout aux revendeurs, les fameux Kadhafi, accusés de spéculation. Selon plusieurs témoins, ils proposent désormais le litre à 5000, 6000, voire 10 000 francs. Aucune explication économique n'a été donnée pour justifier cette flambée, mais les conséquences, elles, sont bien visible, coût de transport en hausse, pression sur le pouvoir d'achat et risque de perturbation de la mobilité urbaine. Les explications de Jacques Moukongolé.
C'est une douche froide pour la population. Alors que les stations-service ont augmenté le prix d'un litre d'environ 3000 francs congolais, chez les Kadhafi, c'est l'envolée. Le prix des transports explose. Témoignage d'un élève.
Parfois, maman me donne 2000 francs aller et retour. Et aujourd'hui, les prix du moteur ont augmenté à 1500. Donc je suis obligé de rentrer à pied et de payer le 1500 pour aller.
Sur le marché, les prix des denrées de première nécessité commencent à frémir.
Ça aura eu aussi l'impact sur les prix des denrées alimentaires. Les transports, les marchandises qui quittent, je donne un exemple, des Bougna jusqu'à Kisangani. Quand il y a déjà les prix des carabins qui augmentent, ça aura déjà un impact sur les denrées alimentaires.
Face à la grogne, le gouvernement sort de son mutisme par un communiqué. Il condamne ces hausses injustifiées et promet des sanctions exemplaires contre les opérateurs récalcitrants. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À noter qu'à Beni, le prix du carburant connaît également une hausse. Les opérateurs économiques évoquent des difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers. Selon eux, le carburant destiné à Beni, Butembo et Lubero provient en grande partie des villes kenyanes d'Eldoret et de Kisumu, où le prix du mètre cube serait passé de 650 à 1200 dollars américains. Une flambée qu'ils attribuent notamment aux tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le marché pétrolier international.
Actualité internationale.
Malgré la volatilité de prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient, le Nigeria peut désormais compter sur la gigantesque raffinerie d'Aliko Dangote à Lagos pour garantir l'approvisionnement national. Avec une capacité de 650 000 barils par jour, l'usine assure la distribution locale et limite le risque des pénuries. Mardi 10 mars, la raffinerie a baissé donc ses prix, départ en entrepôt environ 0,77 le litre d'essence et 1,03 le litre de diesel, conformément à la baisse du prix du brut. Le nouveau directeur du site de Lekki, David Bird, confirme que la production tourne donc à plein régime, mais dénonce de lourdes charges imposées par 47 agences gouvernementales qui renchérissent le prix à la pompe. Et il rappelle aussi que le groupe doit encore acheter une partie de son pétrole brut en dollars sur le marché international. La direction presse donc les autorités de réserver en priorité le brut nigérian aux raffineries locales, une mesure jugée cruciale pour stabiliser la production et soutenir le marché intérieur.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Ernest Amsini Safari, médecin spécialiste en médecine interne. Il vient d'organiser au centre Hippocrate de Kindu un séminaire de renforcement des capacités destinées aux cliniciens sur la prise en charge des urgences médicales en milieu hospitalier. Quel est l'objectif de cette formation? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement au personnel soignant et aux patients? Élément de réponse avec le docteur Ernest Amsini Safari dans cet entretien conduit par Florence Kizalunga.
Docteur Amsini Safari Ernest, bonjour.
Bonjour madame.
Toute une formation sur la gestion des urgences. Qu'avez-vous constaté pour arriver à organiser cette session de formation au bénéfice des cliniciens de la province?
En fait, la formation est issue d'une observation. Observation selon laquelle nous avons constaté qu'il y avait des décès que nous appelons des décès évitables. Et parmi les raisons qu'on avait, en plus d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise cohabitation entre personnel, nous avons trouvé qu'il y avait aussi un problème d'ignorance sur certaines pathologies et cette ignorance qu'il fallait peut-être renouveler certaines connaissances et pratiques dans un cadre d'échange afin de permettre d'outiller le personnel d'une connaissance adéquate pour mieux prendre en charge le malade qui nous vient en urgence.
Vous parlez de l'ignorance de certaines pathologies dans la prise en charge. Il s'agit exactement de quelles pathologies, même si vous ne citez pas tout.
En fait, madame, vous savez qu'il y a des décès qui font trop de bruit, parmi lesquels vous avez des décès maternels. Avec le décès maternel, ça fait trop de bruit. Et parmi les causes de ces décès, nous pouvons citer la maîtrise des hémorragies. Nous n'avons pas de banque de sang. La maîtrise des hémorragies occasionne trop la mort. Et si nous pouvons facilement détecter cette hémorragie à temps et connaître comment s'y prendre, je pense nous allons réduire au minimum le décès maternel. Par exemple, c'est une urgence. Quand une femme qui accouche, qui saigne, c'est une urgence. Il y a des enfants qui nous arrivent dans des tableaux de détresse respiratoire. Si nous ne savons pas comment nous y prendre, comment assurer une bonne oxygénothérapie, c'est un problème. On peut perdre cet enfant, on peut perdre cet adulte. Donc il fallait un technicien expérimenté pour quand même nous expliquer comment s'y prendre devant de tels tableaux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des cas d'hypertension artérielle qu'on appelle des urgences hypertensives, les cas d'insuffisance cardiaque qui nous viennent dans des tableaux de décompensation. L'ensemble de tous ces éléments devrait vraiment être débattu afin que le professionnel de santé ait quand même d'arguments ou de moyens pour se défendre devant ces situations-là.
Mais docteur, pourquoi alors avoir pris seulement cette couche des cliniciens alors que dans des salles d'urgence, il y a différents professionnels de santé qui s'y trouvent?
En fait, oui, dans la gestion des urgences, il n'y a pas que le clinicien. Et nous, de notre part, nous n'avons pas seulement choisi des cliniciens. Nous avons été avec des techniciens de laboratoire. Nous avons été avec des personnes d'appoint au niveau de l'imagerie. Nous avons été avec deux médecins, avec des infirmiers, parce que c'est toutes ces couches-là qui sont considérées comme acteurs principaux dans la gestion des urgences. On avait même des biologistes.
Alors, pour limiter les décès évitables, vous pensez seulement que ça peut être le problème dû à l'insuffisance de certains professionnels de santé, même côté matériel et infrastructure, ça ne peut pas être aussi à la base?
En fait, dans la prise en charge, il y a beaucoup de paramètres, mais de notre côté, nous avons trouvé d'abord, premièrement, qu'il fallait commencer par la formation du personnel. De deux, nous avons émis des recommandations, certains hôpitaux qui peuvent avoir des outils pour gérer certaines catégories d'urgence et nous avons formulé des recommandations pour que les apprenants puissent savoir comment aussi transférer le malade dans des structures qui peuvent être à mesure de prendre en charge telle ou telle autre situation. Et au gouvernement, aux autorités de pouvoir équiper au minimum le service d'urgence afin vraiment de faciliter le personnel médical à bien prendre en charge le malade.
Qu'ils doivent savoir tous ceux-là qui interviennent dans la salle d'urgence?
En fait, ils doivent d'abord savoir qu'une bonne réception du malade, un bon triage de ce malade qui nécessite un soin d'urgence est très capital et une bonne orientation de malade vers le personnel d'appoint et le choix de matériel adéquat, ça fait partie des critères pour une bonne prise en charge de malades aux soins intensifs ou en urgence.
Docteur Amsini Safari Ernesto, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était le docteur Ernesto Amsini Safari, spécialiste en médecine interne. Il revenait avec nous sur les séminaires de renforcement des capacités dédiées à la gestion des urgences médicales en milieu hospitalier organisé au centre Hippocrate de Kindu. Merci à lui pour ses éclairages et merci à Florence Kizalunga pour cet entretien. Merci d'avoir suivi le journal des 18h sur Radio Capi, la radio de la paix et de l'information vérifiée, mise en onde. Alain Goy, présentation Gisèle Cage. Retrouvez davantage des contenus d'analyse, des vidéos et des mises à jour sur toutes nos plateformes numériques. Très bonne soirée à vous.